Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sébastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGoyeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
C'est 23.
Un condensé des meilleurs moments de Debout les comiques en format balado. Debout les comiques, juste le meilleur.
Debout les comiques. 96.9. C'est quoi?
On va se jaser du Beach Club. On apprend ce matin que le Beach Club, c'est son dernier été qui est en vue. L'été 2024 sera le dernier du Beach Club qu'on a connu depuis les 10 dernières années.
La nouvelle est particulière. Ouais. C'est-à-dire qu'hier, Olivier Primo avait déjà teasé le fait qu'il annonçait une grosse nouvelle par rapport au Beach Club. Tout le monde pensait que c'était la programmation puis la grosse affaire. Et il a commencé une vidéo en disant « Le Beach Club est mort, vive le Beach Club ». Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça fait 30 ans que ça existe, le Beach Club en tant que tel. Et Olivier Primo, lui, c'est le propriétaire depuis les 10 dernières années. Dans les dernières années, il a vraiment réussi à en faire quelque chose de très, très gros. C'est-à-dire qu'il y a des artistes internationaux qui sont venus au Beach Club en prestations musicales, les plus grands DJ
Paris
de ce monde.
Paris Hilton et autres, puis les DJ, y a eu, ils sont tous passés là. C'est
plusieurs
un incontournable.
Plusieurs célébrités aussi, effectivement, tu as raison de le mentionner. Puis Olivier Primo en a toujours été très fier, mais le Beach Club a toujours fait jaser, puis beaucoup négativement.
Ben, peut-être négativement à cause de la police, mettons, qui rapporte des incidents, la noyade d'un client sous en 2015, la mort d'un citoyen de Pointe-Calumet renversé par un automobiliste, la présence de groupes criminalisés qui ont été vus sur place, et aussi le mauvais voisinage, parce que ça change, ça enlève de la quiétude aux gens là-bas. On le sait, ça a fait la manchette. Donc, ça donnait une teinte un peu négative. Puis de l'extérieur, la perception de ça, moi, je l'avoue, là, j'ai toujours eu des préjugés défavorables. Mais en même temps, je peux pas m'empêcher de penser qu'il y a quelque chose qui est bien fait là-dedans. Il y a quelque chose qui marche.
Ouais.
C'est sold out. Il y a du monde qui trouve du fun à aller là, qui vont s'en ennuyer du Beach Club. C'est eux qu'on veut entendre ce matin. 790, c'est quoi? Le texto 96-9 pour vous lire.
En même temps, ce qu'on décrit là, c'est ce qu'on appelle un bar.
C'est ça.
Tout ça, en fait, c'est la fonte d'un bar.
C'est un bar en plein air. Là.
Pas juste ça. Olivier Primo disait hier, et avec raison, c'est le plus gros mini-festival tous les week-ends extérieurs en Amérique du Nord. Il n'y a personne qui fait ça de la manière dont le Beach Club le présentait. Puis c'est la raison pour laquelle c'était extrêmement populaire. T'sais, t'avais les Tiesto, t'avais Martin Garrix, t'avais David Guetta. Les plus gros DJ se rendaient là. Puis un peu comme Escapade à Ottawa, on faisait un événement mais chaque week-end.
Ouais.
Fait que là, ce que Olivier Primo a annoncé, c'est que le Beach Club, cette année, c'est la dernière édition comme on le connaissait. Vous allez voir, la programmation va sortir bientôt, les DJ vont être annoncés, vous allez pouvoir y aller. Après ça, Olivier Primo a dit, inquiétez-vous pas, je conserve l'établissement, je vais investir plusieurs millions de dollars, puis il y aura comme un Beach Club 2.0 en temps et lieu qui vous sera annoncé.
Okay.
Olivier Primo a dit que d'ici la fin de l'année, on va savoir c'est quoi. Mais là, cette année, c'est départi de ses festivals. Fuego, Fuego, c'est plus lui que ça.
Oui.
Métro, c'est plus lui que ça.
Radio, Radio aussi, c'est à lui, il l'a vendu un moment donné.
Il s'est départi de la majorité de ses restaurants.
Oui.
Là, il va se concentrer sur le Beach Club 2.0.
Des comiques, de retour après ceci.
Debout les comiques! 96.9, c'est quoi?
Le podcast Debout les comiques.
Je me présente à vous, mon nom c'est Nive.
Quoi?
Regarde, c'est comme Steve, mais avec un N.
Mon nom c'est Nive.
Ça m'avait manqué, ça.
Il est de retour dans Debout les comiques exceptionnellement ce matin. Salut Nive.
Salut. Hello.
La première médiatique de son nouveau show, c'est le 26 mars qui s'en vient à l'Olympia. Son show s'intitule « Pas besoin d'ajouter la sauce ». Et il est avec nous ce matin, l'excellent Nive. Ton niveau d'excitation est à combien, mettons, sur une échelle de 1 à 10 000?
On est à 16 000 facile.
Okay.
Ouais, ça fait longtemps moi que je travaille là-dedans. Ça fait 15 ans que je fais de l'humour et c'est ma première là. Fait que...
T'avais pas déjà fait une tournée?
Non, elle était prévue. Et c'était prévu sortir mars 2020. Donc voilà, pandémie oblige, ça n'a pas eu lieu. Mais j'avais quand même fait des shows qui ont pensé être des rodages et pour s'en venir à la vraie tournée. Et finalement, l'année dernière, il y a eu une espèce d'épiphanie de, mais tu sais comment c'est des fois, tu es tanné de ton stock, là.
Ouais.
Tu en as marre de faire certains numéros. Et en plus, un premier show, c'est souvent un combiné des meilleurs best-of, etc.
Puis le contexte a changé beaucoup.
Contexte a changé, ouais. J'ai changé, la famille s'est agrandie, etc. Puis à un moment donné, je dis à mon gérant, tu sais quoi, man, je vais recommencer à écrire, là, j'ai besoin.
Ouais.
Fait que là, je fais un rodage, je me rappelle, c'était au bordel, hein, 60 minutes. Et je dis à mon gérant, François, je dis, écoute, François, je vais essayer le premier 15, j'ai du nouveau stock. Après, je tombe dans le matériel. Il me dit, oh, oui, fais ça. Le premier 15 s'est avéré être 47 minutes de stock. Ouais.
Aïe,
pas
aïe,
tout
aïe.
Bon, évidemment, mais ouais, le premier élan.
Ça t'a porté, là.
Et là, j'ai fini le show, je l'ai regardé, je dis, ben, on scrape le show. Il me dit, ben, évidemment. Ah ouais. Fait que ça fait un an qu'on a recommencé à écrire ce show-là et c'est le meilleur move, je pense, de ma carrière.
Mais à
parce
quel
que...
point tu devais te sentir bien en sortant de ton 45 minutes, ah, frère, rassuré?
J'ai
là.
Gagné au loto.
Ben oui.
D'une part, parce que ça se peut d'écrire un nouveau show, et d'autre part, parce que tu te dis, ah ouais, putain, mais attends, j'ai du métier, là, ben je vais l'utiliser.
Ouais,
et évaluer ses skills après 15 ans, c'est rare que tu as l'occasion,
ben oui.
aussi
mais
franchement. Ça... Fait que là, on est reparti en écriture, puis ça s'est fait magnifiquement bien.
Et là, tu as fait ta première à Québec,
oui.
il y a une semaine.
Mm. Yes.
Et là, ça a super bien été.
Ouais, vraiment.
C'est quoi, selon ce que tu as reçu comme écho, c'est quoi le moment fort de ton show? Qu'est-ce
ben,
qui ressort
je te dirais
le plus?
Du début à la fin.
Yes!
Là, pas fait fort, là.
Non. Ah non, mais attends, là, tu as fait une espèce de petit accent québécois.
Oui.
Tu as un numéro sur la façon dont on parle au Québec.
Oui.
Qui a l'air de faire beaucoup réagir.
Ouais, ouais. Ben écoute,
on parle-tu bizarrement?
Non, au contraire. Je trouve qu'on ne célèbre pas assez notre langue.
Ah, ouais.
C'est un peu ça, langue du numéro. T'sais, on est obsédé par la francisation au Québec. Mais il faut se dire les vraies affaires. On ne parle pas français au Québec, on parle joual. Et c'est un peu ça. Je niaise ça un petit peu.
Mais d'ailleurs, il y a Geneviève, c'est la messagerie, qui dit « On va voir ton show demain à Terrebonne. »
Yes!
Tu dis hors micro que ça te tentait moins, ce show-là.
Ben, non, mais en même temps, Terrebonne. T'arrives là, des belles maisons. Les gens sont heureux.
Ah, c'est
comme...
gossant, ça.
Et
leur slogan de Terrebonne humeur.
Ah, ça confronte.
Allez chier. Non, mais au contraire, très
ben
excité.
Oui, cool, au bout.
Tu sais, ce qui est génial, c'est que moi, j'ai suivi Louis-José pendant 6 ans, tournée,
ouais.
là,
ouais.
en faisant ses premières parties. J'ai fait toutes ces salles
oui.
en 10, 12 minutes. Et là, c'est comme, ouais, mais là, c'est à moi, là.
Oui.
Tu sais,
ah,
j'ai
hein.
le premier choix du sandwich dans la loge. C'est extraordinaire. Ah!
Est-ce que tu amènes une première partie avec toi?
Alors, pour cette tournée, non. Parce que ce que j'ai réalisé, c'est que, tu sais, les premières parties, d'habitude, c'est un chum, c'est quelqu'un
ouais.
que.
Puis t'as pas d'amis, vraiment.
Non. Un solitaire. Tu sais, être baveux de même, c'est ouais. ça que tu te fais. Tu te peintures dans le coin. Non, en fait, c'est que moi, tous mes amis sont à leur deuxième, troisième tournée, là.
Wow.
Je suis le dernier de la cohorte, moi.
Ben, c'est drôle parce que je voulais t'amener un peu là-dessus. Ça fait 15 ans que tu oui. rêves de lancer ce show-là.
Oui.
Y a-tu un piège au fait d'attendre aussi longtemps? Mm. Tu me parles que tu as scrappé ce que tu avais fait
oui.
parce que l'ancrage d'un premier show, c'est ce qui t'est arrivé dans les 3-4 dernières années. Généralement,
oui.
quand on commence en humour, la moyenne, c'est à peu près ça, 5-6 ans, puis tu es en tournée. Y a-tu un piège, toi, parce que ça fait 15 ans, ou c'est que du bonus pour toi?
Le piège, c'est l'embonpoint, je te dirais.
Ah.
Trop de poutine sur la route, j'ai
ah
pas
ouais.
eu ma première affiche, je vais le délancer, moi, c'est ça le problème. Non, en fait, non, moi, la façon que je le vois, et c'est un artiste que j'ai toujours adoré en musique depuis que je suis adolescent, c'est Ben Harper. T'sais. Ben Harper a fait 12 albums, il a un vidéoclip qui est sorti dans
c'est
sa
vrai.
Carrière.
Raison.
Et il a fait ce qu'il a voulu, c'est une musique éclectique.
Sans compromis.
Jamais. Et c'est un gars qui a ouvert et fermé le festival de jazz dans sa carrière, t'sais, qui est un musicien de renommée mondiale. Et moi, ça a toujours été un gars qui m'a parlé par cette liberté-là. Et donc, j'ai appris dans ma carrière, il y en a qui arrivent vite, il y en a qui arrivent et qui repartent, il y en a qui sont là pour rester. Moi, à un moment donné, évidemment, j'avais des frustrations.
Il y en a qui sont un petit pas à
la fois. Il y en a qui sont un petit pas à la fois. Et au début, tu sais, on m'avait promis, tu connais mon histoire, là, tu étais le prochain, t'es le prochain. Mmh. Puis ça n'arrivait pas. Et à un moment donné, la question que j'ai eue, c'est avec ma femme, d'ailleurs, que j'ai eu cette conversation, c'était quoi le rêve?
Ouais.
Moi, c'était de ne pas travailler à vendre des cellulaires dans un centre d'achat. Là, mmh. Je voulais vivre de la scène coûte que coûte. Et à la base, je suis musicien, moi, je ne suis même pas humoriste. Et quand j'ai réalisé, ouais, mais ça fait 3-4 ans que je vis de ça.
Ouais, c'est ça.
Mais je suis dans le rêve, là. Mmh. Alors après, le comment, le pourquoi, on s'en fout.
Mais
moi, je fais de l'humour, ça fait 15 ans.
Nive, on te garde avec nous parce que tu l'as évoqué, on t'a promis des choses, puis il y a eu des changements. T'as peut-être même été à risque dernièrement avec ce qui est arrivé avec Juste pour rire.
Oui, entre autres.
On va s'en jaser, Nive. Nive qui est avec nous, l'ami Nive qu'on aime de tout
ouais.
notre cœur ici.
T'es comique? De retour dans un instant.
Debout les comiques. 96.9, c'est quoi?
Le meilleur des comiques? Sur demande.
en compagnie de Nive, notre ami ici au 96.9, c'est quoi? L'ami de tout le monde aussi qui aime les bagels.
Hey, sur la messagerie, entre ça autres. Déborde. Nive, il y a Diane qui dit qu'elle a vu ton show et qui était solide, drôle. Elle a adoré toute la soirée. Elle t'a trouvé incroyable. Il y a Lynn aussi qui t'a vu à Coteau-du-Lac. Elle dit « J'ai ri ma vie ».
Ah oui, JP Martin, je t'ai vu à Beauharnois il y a 2 semaines. Je suis tombée en amour avec toi. Et Éric Courtemanche, moi, j'ai eu la chance de voir l'excellent spectacle de Nive en janvier. J'ai rarement autant ri que ça.
Ah, merci, les amis.
Ça
sinon, Nive, ça fait 15 ans que tu rêves de lancer ton premier one-man show. Tu le disais, il a été retardé par la COVID. Et là, il est arrivé un autre contre-coup, disons-le comme ça, il y a 2 semaines, quand on a appris la chute, littéralement, de l'Empire Juste pour rire. Ouais. Et c'était ton producteur, Juste pour rire.
Ah oui, oui.
Moi, quand c'est arrivé, pour vrai, la première personne à qui j'ai pensé à tout le monde globalement, mais je t'ai texté, Nive, de faire comme « Hey, man, je suis avec toi, mon frère, là-dedans.
Ouais. »
Horrible, mais conte-nous un peu le background de ça, parce que quand c'est arrivé...
On l'apprend comme tout le monde. Ben je suis sur mon cellulaire, la notification de la presse, elle pop, et puis c'est comme... sous les protections des créanciers. C'est comme, oh shit, OK, qu'est-ce qui se passe? Et là, tu sais, tout de suite, tu comprends pas les implications. Et pendant que je lis l'article, ça commence à rentrer. Ma femme, ma mère, qu'est-ce qui se passe? C'est comme, oh shit! Et là, écoute, on l'a appris en même temps que tout le monde, tu sais, puis... Il faut comprendre aussi que c'est une décision d'affaires qui n'implique pas nécessairement les employés Juste pour rire. Là, c'est pas mon producteur qui m'a dit, tu sais quoi, mange la marde à 3 semaines de ta première, à 1 semaine de Québec, on t'arrête.
Mais ça peut quand même précariser l'organisation.
Absolument, absolument. Ça a été, écoute, ça va se régler là pour tous les gens qui me textent, qui m'appellent. Et ça, je dois le dire, il y a une solidarité du milieu qui fait chaud au cœur. J'en ai pleuré même. Tu sais, comme je te disais un peu hors d'onde, des cordeaux du Zoufest d'il y a 10 ans.
Ouais.
Hey Big, on a vu ça. Si jamais on peut t'aider à repartir, t'es chaud. Merci.
Tout le monde a levé
la main. Les producteurs, si vous avez besoin d'avocats, de producteurs, de marketing, nos équipes sont là. C'est une vraie temps de guerre, quoi. Amis, si vous voulez manger, venez ici. Et ça a été extraordinaire, moi, je trouve, du milieu, vraiment. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de peine et d'empathie pour tous les gens.
Absolument.
Mon équipe qui a perdu son travail du jour au lendemain. Et là, tu sais, c'est une décision, malheureusement, d'affaires, de business. Il y a une grosse dette qui a été accumulée. Bon, ça, c'est du business, là. Écoute, ça arrive, tu en gagnes, tu en perds. Maintenant, nous, on va s'en sortir, évidemment. Mes gérants, la première réaction, ça a été « Oh, fuck ». Ils ont travaillé 35 ans, Juste pour rire, les deux.
Ben ouais.
C'est fou, hein?
Puis là, après, une heure après, Gisèle Barry, ma gérante, et François Sima, qui m'appelle et qui me dit « Non, non, les premières se passent, on y va.
Ah »
Et là, le switch de « J'ai même pas le temps de faire un deuil. »
Non, non.
Parce que j'ai une première, man, let's go. Fait que là, ça part dans tous les sens, puis on y va. Et puis,
t'as une première, t'as une tournée qui s'en vient avec 2 enfants de 5 ans et 1 an.
Oui.
Comment est-ce que tu entrevois le fait de partir en tournée?
J'ai hâte de dormir à l'hôtel.
Oui, c'est ça.
J'ai hâte de dormir à l'hôtel.
Parce que le bébé, quand j'ai arrêté la radio, je ne sais pas si je peux le dire, mais en tout cas, on m'avait proposé de joindre votre équipe, que j'aurais fait grand bonheur. Et j'avais pris la décision que non, parce justement, le spectacle arrivait, etc. Mais mon bébé n'a pas eu le mémo. Donc lui me réveille encore à 3h. Papa va travailler. Je travaille pas, gars. Allez, laisse-moi dormir. Voilà. Non, mais ça se passe bien. Écoute, ma femme est extraordinaire dans ce rôle-là depuis
c'est 13
ans. 13 ans qu'on est ensemble. Puis elle le dit jamais assez, mais je le dis moi. Tu sais, elle écrase ses rêves pour que je vive les miens. Donc je serai éternellement reconnaissante pour ça.
Puis je veux le spécifier parce que sur la messagerie, on demande où acheter tes billets. C'est ton site, c'est le nivehumoriste.com.
Exact.
Parce que toutes les dates sont là et il y en a une trolley. C'est une solide tournée.
Ouais, on part pour la gloire, comme je dis un peu à mon gérant. Tu sais, on a assez travaillé, là, on passe à la caisse, là. Let's go.
Mais mon bon Nive, make it rain. Nive, je vais prendre 30 secondes quand même, parce que je m'en voudrais de pas aborder le sujet, même brièvement avec toi, de ce qui se passe présentement, le conflit entre Israël et le Hamas. Je veux pas que tu deviennes le porte-étendard, mais je veux entendre ta sensibilité là-dessus. T'es où à matin en ce 20 mars 2024?
Écoute, d'après moi, n'importe quelle autre opinion que de vouloir la paix, c'est de la foutaise. N'importe quelle autre opinion que de vouloir que ça se règle. T'sais, on a beau avoir
deux côtés.
Mais absolument, pour les gens, putain, l'humanité, là, on s'en fout, là. C'est pas une question politique, c'est plus une question politique, c'est plus une question de territoire. On a vu ce que ça a engendré dans le monde entier comme réaction. Il y en a légitime, il y en a complètement extrême. Il y a une montée de l'antisémitisme qui est effarante, effrayante. Et c'est dans des villes, dans des endroits où c'est jamais arrivé. T'sais, je voyais une vidéo hier en Floride, une école secondaire, primaire, qui se fait attaquer. Ça n'a aucun sens, là. Fait que, ultimement, là, pensons qu'il y a des gens des deux côtés, là. Il y a des politiciens, il y a des terroristes, il y a de la merde un peu partout, mais à la fin de la journée, là, il y a du monde. Fait que moi, mon opinion, et c'est même pas une opinion, c'est juste une situation, il faut que ça se règle, et j'espère la paix durable et que tout le monde soit capable d'être autonome dans cette région-là et vivre côte à côte comme ils le font depuis des millénaires.
On t'aime, ouais. Niamh.
Mais moi aussi, je vous aime,
si
les amis.
Encourager un humoriste réel, ouais. Niamhhumoriste.ca, c'est ça?
.com. Ah oui. Ben les deux, ça sera pareil.
Puis en attendant, tu vas nous faire rire, ça va nous faire du bien.
Oui.
Bonne première,
yes.
La semaine.
Merci, les amis. Ouais.
Fun,
j'ai hâte de vous voir. .com
pour les détails.
Je vous aime. Yes.
Le podcast Debout les comiques.
PC, qu'on l'appelle PC Jolicoeur, courtier hypothécaire, qui est avec nous à tous les jeudis matins et qui fait réagir sur le web, partout et même sur le trottoir, j'en suis convaincu.
Hey.
Bel homme élégant de sa personne. Tu vas nous parler, PC, ce matin, d'une solide histoire d'une femme qui a déconné après avoir eu sa préqualification.
Oui, exact, parce que, tu sais, moi, j'ai comme une équipe, on est comme 3-4 courtiers ensemble, puis une de mes courtières qui s'en vient me voir, puis comme, écoute, PC, elle dit, il y a une situation vraiment particulière, mais qui est arrivée, elle dit, il y a à peu près 3 mois et demi, elle dit, j'ai fait une préqualification pour une cliente, mais là, je sais pas quoi faire, parce que quand on avait sorti de son bureau de crédit, elle avait pas de dette. Puis là, elle, la cliente, ce qu'elle s'était dit, c'est que vu qu'elle avait sa lettre de préqualification en main, elle pouvait aller, mettons, avoir un paiement d'auto, des marges, etc., puis ça n'allait pas affecter, mettons, sa capacité d'emprunt.
Attends, fait qu'elle a fait une préqualification, puis elle se dit, moi, d'ici 6 mois, j'achète une maison.
Ouais. Elle s'est dit, c'est comme...
Quand, c'est réglé.
C'est comme si c'était gelé, mettons.
Ouais,
c'est comme
c'est
si
ça.
J'ai ça, puis c'est tout.
Fait que je peux emprunter X montant d'argent, c'est déjà réglé, j'ai ma lettre qui le confirme, comme c'est si ça. C'était un contrat signé, et donc, à partir de maintenant, je peux faire n'importe quoi avec mon bureau de crédit.
Exact. Fait que là, ce qui s'est passé, c'est qu'elle revient avec une promesse d'achat il y a à peu près même pas une semaine encore. Mais là, elle est fière, puis tu sais, elle est allée au max en plus, comme ça. Après,
oh
je pense c'est à peu près comme 500 000, puis elle est arrivée à 495, puis le courtier, il nous envoie tout ça. Puis là, quand on commence à monter le pire, c'est qu'elle nous l'a pas dit. Fait que là, nous autres, on lui demande, parce que genre, mais sur les préqualifications, soit mais sur la lettre en tant que telle, c'est marqué que l'institution financière n'a pas regardé de document. Fait que c'est basé sur les informations données.
Mm-hmm.
Puis le bureau de crédit sorti à ce moment-là. Fait que là, on lui a tout demandé, mais ces documents.
Donc,
etc.
ce qu'on comprend, c'est quand tu arrives à l'étape, la banque va les regarder, les détails. Là.
Exactement, mais qu'on arrive avec la promesse d'achat.
C'est ça.
T'sais.
Oh non.
Fait que là, quand on monte tout le dossier. Là, on arrive, puis on ressort le bureau de crédit. Mais là, les ratios passent de comme 42, mettons, sur 44 à 112. Fait que là, elle vient me voir, elle comme, je comprends pas, PC. Fait que là, on check, je suis comme, il y a donc bien une ligne de crédit là-dessus.
Non!
Même. Qu'est-ce qui se passe? Fait que là, elle s'était pris une marge de crédit de 40 000, un autre de genre 25 000.
Elle avait trois marges.
Elle avait plus que 100 000 sur du rotatif, puis elle s'était pris un paiement genre de Tesla. Ça coûtait comme 800 quelques par mois. Mais là, la cliente, en plus, au lieu de faire « Ah non, c'est de ma faute », elle était fâchée après nous parce qu'elle était comme « Non, mais c'est votre faute. »
Comme si tu l'avais pas averti, genre?
Comme si c'était comme « Non, mais vous allez trouver une solution. Moi, je viens vous voir pour ça. » Je suis comme « Non, mais je peux pas croire que tu t'es dit « Je vais acheter une maison puis je vais faire une préqualification. » C'est important que le monde comprenne que si tu fais une préqualification...
Ben, je suis content de le savoir parce que moi, j'aurais jamais pensé ça. Ouais. Pour vrai, j'aurais dit ben, « s'il faut que tu changes ton auto, donc faut t'avertir si jamais ça arrive. » Parce que ça se peut dans la vie qu'on soit obligé.
Ouais.
On a un accident, mettons, puis là, on doit avoir un paiement qu'on n'avait pas. Mais là, à ce moment-là, si j'ai une préqualification puis que ma situation financière change, faut que je te le dise parce que sinon, c'est sûr que ça passera pas à la banque rendu là.
Puis même une lettre de préqualification, souvent le monde, puis même les courtiers pensent que ça veut dire que c'est garanti.
Ouais.
Mais c'est marqué dessus, mais il y a des clauses qui sont en titre justement que ça parle par rapport à la documentation puis par rapport au fait que si tu mets moins que 20% de mise de fonds, c'est aussi conditionnel à l'approbation de l'assureur. Fait que même si la banque dirait « moi, je l'approuve », s'il l'envoie à la SCHL, par exemple, puis qu'eux, ils disent « Ah non, c'est selon nos critères, mais ça fonctionne
pas. »
C'est pas garanti. Fait que tu sais, ça vaut ce que ça vaut, une précale. Ça donne un bon approximatif.
Ouais.
Mais tu sais, t'auras pas l'heure juste, mettons, temps et aussi longtemps.
Il faut plus le prendre comme un aperçu de ce qu'on pourrait potentiellement emprunter versus une garantie que c'est faite.
Exact, c'est ça. Puis il faut que tu t'assures que si ça change, comme je t'ai dit, Martin...
Ben oui.
Mais elle roule-tu bien, sa Tesla?
Non,
mais j'y souhaite parce qu'elle a perdu une maison.
Mais ça a pas marché, finalement. La transaction a été annulée.
Mais non, parce qu'on lui a dit, ça prendrait un co-demandeur. Puis comme moi, c'est pas vrai que je vais commencer à mettre du monde sur ma maison. Tout, mais je suis comme, honnêtement, je sais même pas comment tu fais pour dormir.
Ben non,
ça
c'est
ça faisait quoi, 120 000 par année à peu près, là?
Ah, my God, quelle histoire. Merci, PC.
Le podcast Debout les comiques.
C'est 23.